Eh bien là, il y a quand même tout le gratin politique là, québécois qui s'est retrouvé dans un événement dont va nous parler maintenant John Parizella, qui a été un conseiller politique très, très proche de Robert Bourassa dans le temps, qui a été délégué général du Québec à New York, qui est aujourd'hui professeur associé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour, John.
Bonjour, Bernard. Vous allez bien?
Très, très bien. Dis-moi, donc, l'ancien président français, François Hollande, qui est à Montréal, et là, il y a beaucoup de gens qui sont allés l'écouter, hein?
En effet. Il y avait, évidemment, l'ancien premier ministre du Québec, M. Pierre-Marc Johnson, qui est président du CORUM. Il y avait aussi l'ancien premier ministre, M. Brian Mulroney. Mm-hmm. Et il y avait l'ancienne première ministre, Mme Pauline Marois, qui était présente, et l'ancien maire, Denis Coderre. Donc, on sentait que il y avait, comme je dis, le gratin montréalais, puis il y avait aussi l'ambassadeur Raymond Chrétien. C'est un homme que je crois il est très bien respecté. C'est clair que c'était un président qui a seulement duré un terme. Il était fortement contesté à travers de ce thème-là. On sentait que c'était il n'y avait pas l'envergure peut-être de certains de ses prédécesseurs, mais au niveau de ses valeurs, au niveau de son approche, je pense dans un sens qu'il y avait un côté très québécois, le côté progressiste puis un côté inclusif. Mm. Et dans ce sens-là, je pense que les gens qui étaient dans la salle puis surtout à la table d'honneur se sentaient très, très à l'aise avec M. Hollande.
Très bien. Parle-nous un petit peu là de celui qui n'est ni progressiste ni inclusif, M. Trump, Donald Trump. Tu voulais faire un petit peu le survol de sa politique étrangère ou de sa vision?
Ben, c'est clair que Monsieur Trump, au niveau de sa politique étrangère, c'est clair qu'il envoie des signaux qui sont beaucoup plus d'une politique plus
isolationniste.
Pardon. Et il a ce signal-là, évidemment, l'amène à aliéner certains de ses alliés qui n'ont plus cette fiabilité de la position américaine. Et il fait des mamours avec des gens qui sont antérieurement vu comme des adversaires de la politique étrangère américaine, la Corée du Nord et évidemment la Russie. Donc ça, c'est problématique. On le ressent. Est-ce que ça va être un enjeu au mi-terme? Probablement pas, mais ça va être un enjeu au niveau du leadership américain. Et la raison que j'ai voulu en parler brièvement, c'est parce que aux Nations Unies, à chaque année, quand j'étais à New York, c'était vraiment l'événement convoité. Il y a les chefs d'État qui viennent prendre la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, ça va être à surveiller. Est-ce que M. Trump va faire un petit virage qui est plus dans les traditions américaines post-guerre, c'est-à-dire le respect pour des organisations et des traités basés sur des règles plutôt que d'aller avec une philosophie que c'est l'Amérique en premier lieu. Ça, c'était la philosophie l'Amérique en premier lieu qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a un sentiment qui tentait de faire une brisure avec tout ce qui s'est produit à partir de Roosevelt Truman jusqu'à son prédécesseur, M. Obama. Donc, c'est à surveiller. C'est pour ça que je l'ai souligné. Je suis certain que Loïc aurait l'occasion d'en parler parce que ça s'en vient très rapidement.
Dis-moi, John, parce que tu poses la question, moi, je veux dire, j'ai eu espoir pendant un certain temps que Trump finirait par habiller les habits du président et donc deviendrait plus réfléchi, plus consensuel, plutôt que de toujours pratiquer une politique de division puis de clivage, de wedge. Mais j'ai renoncé, là. J'ai perdu espoir. Moi, je pense que ce gars-là va rester celui qu'il est depuis le début. Il va rester comme ça jusqu'à la fin de sa présidence. Mais si je t'entends bien, toi, tu perds pas espoir qu'à un moment donné, il devienne un peu plus rassembleur puis qu'il...
Moi, j'ai eu le même sentiment que toi, Bernard, parce que M. Trump, quand même, c'est un New Yorkais, puis M. Trump a quand même supporté dans le passé des présidences plus associées aux démocrates. Comme ça, moi aussi, je pensais que c'était une personne qui pouvait peut-être grandir dans le poste. Ce n'est pas le cas au moment qu'on se parle. Pourtant, il y aurait un bon message, même si je suis pas de la pensée conservatrice économique, il reste quand même que l'économie va bien, et en partie à cause de deux politiques qui ont amené la déréglementation et la réduction du fardeau fiscal, surtout pour les corporations, et l'économie fonctionne à 3,9% de chômage, et le dernier quart, on est à 4,1% de croissance du PIB. Donc, il y a vraiment une bonne histoire, mais à place de nous parler de cette histoire-là, qui parle de location dans ses tweets, il a décidé aujourd'hui de s'attaquer non seulement pour promouvoir la candidature de sa nomination pour le juge de la Cour suprême, M. Brett Kavanaugh. Il a décidé d'attaquer la personne qui accuse M. Kavanaugh. On en a parlé il y a une couple de jours.
La dame,
Mme Christine Blasey Ford, le Dr. Ford, c'est une professeure d'université, qui va témoigner selon toutes indications mercredi prochain. Parce que les Républicains qui avaient mis une date butoir qui était aujourd'hui, vous nous confirmez que vous venez lundi, ils ont décidé de bouger. Puis ça, je pense qu'ils sentent qu'ils sont sur un terrain glissant, les Républicains, c'est-à-dire. Et ce matin, il y avait un sondage du NBC Wall Street Journal qui disait que le support pour M. Kavanaugh était à 36%, mais l'opposition maintenant est à 38%.
Mais tu t'imagines, John, t'imagines une femme qui accuse un possible futur juge de la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement et qui va témoigner au Congrès devant les caméras et qui va quoi décrire l'agression qu'elle aurait subie lorsqu'elle était étudiante universitaire et lorsque Kavanaugh l'était également. Tu t'imagines l'espèce de cirque auquel on risque d'assister?
Oui, puis en plus de ça, M. Trump semble aujourd'hui, par ses tweets, mettre en doute la véracité des allégations de Mme Ford, du Dr. Ford. Comme ça, on va être dans une situation, vraiment le cirque américain à son pire. Les Républicains, évidemment, veulent passer cette nomination parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle des deux chambres au midterm. Donc, ça voudrait dire que la promesse d'avoir un juge conservateur à la place sur la Cour suprême serait maintenant perdu. Et les démocrates, eux autres, savent que les républicains ont tout fait pour empêcher de mettre un juge progressiste dans la dernière année du mandat de M. Obama.
Oui, c'est vrai, ça.
Mais eux aussi ont des motifs politiques. Donc, c'est vraiment pas l'Amérique à son meilleur. C'est vraiment l'Amérique à le plus idéologique possible, le plus polarisant possible.
Oui, oui.
Et c'est inquiétant, pas de doute.
Parlant de polarisation, il nous reste 2 minutes. On sait que les Britanniques ont voté par une très faible marge pour sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et là, la première ministre, Mme May, essaie depuis ce temps-là de négocier la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, sauf qu'elle a beaucoup de peine à y arriver.
En effet. Et il reste à peu près 6 mois avant que le divorce se finalise. Est-ce que ça va être un divorce acrimonieux ou est-ce que ça peut être un divorce à l'amiable? Au moment qu'on se parle, il est clair que l'appui pour le Brexit, qui est à 52-48 dans les faits, il y a une couple d'années, serait maintenant l'inverse. Et les personnes qui étaient présentes lors de ce débat-là, David Cameron a démissionné, qui était en faveur de rester dans l'Union européenne, et l'opposant, c'était dénommé Nigel Farage, qui n'est même plus sur la scène politique. Donc, on a essentiellement de la tension à l'intérieur des partis. Le Parti conservateur en particulier, qui a perdu leur ministre des Affaires étrangères, l'ancien maire de Londres, de Boris Johnson, qui s'oppose au plan Chequers. Ça, c'est la formule de compromis que Mme May a faite. Rendu public. Comme ça, on est dans une situation que ça va brasser, puis même on commence à avoir un mouvement pour un deuxième référendum, et c'est dirigé par le maire de Londres. Et il y a des scissions déjà en ce moment à l'intérieur du parti travailliste. Comme ça, on a une situation qui va être vraiment, vraiment dans les nouvelles dans les prochains mois et ça s'annonce pas très bien. Les Britanniques, comme vous savez, n'ont pas la monnaie commune, mais ils tiennent de garder une partie du libre-échange sur des produits et des biens.
Oui.
Qui touche l'industriel et agriculture pour protéger des emplois. Donc, on est dans une situation que Mme May essaie de faire un compromis qui affecte pas son économie tout en ayant le divorce. Et les Européens, aujourd'hui, à Salzburg, ont regardé le plan Chequers puis l'ont rejeté. Donc, il y a un sommet qui est prévu au mois d'octobre pour essayer de réconcilier les choses. Mmh. Et là, maintenant, on parle d'un autre sommet au mois de novembre, sachant que celle du mois d'octobre risque de pas avoir une conclusion favorable.
C'était tout le temps qu'on avait, John, mais je regarde ça de loin, ce qui se passe en Grande-Bretagne. J'ai habité là pendant un petit bout. J'ai fait ma maîtrise là, puis... Écoute, ça se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression là, il y aurait un parti là qui se présenterait aux prochaines élections en disant si vous nous élisez, on fait un référendum pour garder la Grande-Bretagne dans l'Union. Là, je pense que ce parti-là aurait des chances de gagner les prochaines élections, John.
tout à fait d'accord avec toi, Bernard. Et ça va être à suivre quand même parce que c'est vraiment important. C'est maintenant devenu notre deuxième plus grand partenaire, l'Union européenne, après les États-Unis. On connaît, on a discuté il y a deux jours la question de l'ALENA, qui, soit dit en passant, on n'arrive pas à une entente là, dans les prochains jours. Ça, c'est pas mal certain. Mme Freeland est de retour. Donc, on ne s'attend pas à une entente. Mais en plus de ça, on a l'entente avec l'Union européenne. On parle d'avoir une entente séparée avec l'Angleterre, mais c'est clair que l'Angleterre, en ce moment, va être, le Royaume-Uni va être vraiment impacté si le divorce n'est pas fait à l'amiable.
John Parizella, professeur associé en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci encore, John. À la prochaine.